Et ce vendredi, les astronomes du monde entier vont vivre en direct la fin d'une extraordinaire aventure avec le plongeon dans l'atmosphère de Saturne de la sonde Cassini, 20 ans d'une épopée qui a révolutionné nos connaissances sur Saturne, ses anneaux et sur sa lune Titan, qui est son plus gros satellite. France 5 diffuse ce soir à 20h50 dans sa case Science Grand Format un film documentaire sur cette mission hors norme. Et vendredi, vous pourrez vivre les derniers instants de Cassini en direct de la Cité des Sciences à Paris. C'est le dossier donc cet après-midi de la Tête au Carré avec mes invités qui ont été les témoins et les acteurs de cette histoire spatiale. Vous pourrez leur poser dès maintenant d'ailleurs vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une étude inédite sur la génétique des populations humaines modernes.
Oui, et des résultats qui montrent que la sélection naturelle favorise les humains capables de vivre de plus en plus vieux. Une découverte intrigante, mais qui en dit long sur notre espèce. On en discute avec l'anthropologue Evelyne Heyer.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise notre Tête au Carré, préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier avec Thomas Lehété.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Clap de fin donc vendredi pour la mission Cassini, dossier de l'émission dans un instant avec mes invités que je salue, les planétologues Sandrine Guerlet et Jean-Pierre Le Breton et le réalisateur Frédéric Ramad. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Le Breton, dans quel état d'esprit serez-vous vendredi lorsque la sonde Cassini va se désintégrer dans l'atmosphère de Saturne après toutes ces années que vous avez passées?
Oui, hein, toutes ces années. Ouais. Toutes ces années, en effet. Bah, je serai ému, bien sûr, parce que c'est une mission que j'ai accompagnée depuis le début. Moi, de la voir se terminer de façon un peu, comment dirais-je, un peu brutale, ce sera une émotion, mais en même temps une très grande satisfaction de voir cette mission qui arrive à son apothéose, en quelque sorte. Le plongeon dans Cassini, c'est quand même l'apothéose.
Et vous allez le vivre en direct avec le public.
Direct,
hein.
Oui.
Sandrine Guerlet, Cassini-Huygens, hein, c'est une épopée spatiale hors du commun quand même. Hein.
Hors du commun, en effet, puisque c'est 13 ans autour de Saturne. C'est une mission d'une longévité exceptionnelle qui nous a permis de suivre notamment des changements saisonniers sur cette planète lointaine dont on va peut-être parler aujourd'hui.
Absolument. Frédéric Ramad, vous aviez là tous les ingrédients d'un film à suspense pour votre documentaire France 5.
D'une grande épopée spatiale, voilà, puisque c'est 13 ans autour de Cassini, mais c'est 7 ans de voyage.
Ouais.
Et auparavant, une dizaine d'années de préparation.
Et un atterrissage.
Sur Titan. La plus grosse des lunes de Saturne, un monde qu'on ne connaissait absolument pas parce qu'il est enveloppé d'une atmosphère très dense avant que la sonde Huygens ne s'y pose, ce qui fut une première absolument inouïe. Ouais. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de raconter avec le film et un petit peu plus.
Voilà, c'est ce qu'on verra donc ce soir sur France 5 et puis on va s'y poser en attendant sur Titan avec vous et avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et les humains qui évoluent pour vivre de plus en plus vieux. C'est une étude d'un nouveau genre publiée dans PLOS Biology qui concerne le domaine de la génétique des populations et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Allons, tonton, tati. Être vieux, ça peut être merveilleux. Commençons par ouvrir les rideaux. Profitons, car dehors il fait beau. Avec un peu de citronnelle, on chasse l'odeur de vieille quenelle. Être vieux, ça peut être merveilleux. Il suffit de le vouloir un peu. Même avec du diabète, on peut avoir le cœur en fête.
Voilà, elle a osé, notre réalisatrice Fanny Boyon, une scène de ménage, justement un extrait de cette série pour parler aujourd'hui de cette large étude menée sur le génome de plus de 215 000 Anglais et Américains et qui montre que vivre vieux est un avantage évolutif pour l'espèce humaine. Axel, on reçoit aujourd'hui l'anthropologue Evelyne Heyer.
Bonjour Evelyne Heyer.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur d'anthropologie génétique au Musée de l'Homme. Est-ce que c'est vraiment la première fois qu'on démontre par l'analyse d'un grand nombre de génomes que l'âge est un avantage évolutif pour notre espèce ?
Tout à fait. On avait cette hypothèse-là, mais là, il y a vraiment une démonstration avec les données génétiques.
Comment est-ce que ces chercheurs américains en arrivent à cette conclusion ? Quelle est la démarche derrière ces travaux ?
En fait, ils comparent les variants génétiques portés par des gens plus ou moins vieux et ils se rendent compte qu'il y a des différences selon l'âge auquel survivent des gens.
Ça veut dire que les personnes vivant plus vieilles que les autres ont aussi un plus grand succès reproductif ou en tout cas familial ?
En tous les cas, ils démontrent ça, c'est que effectivement, c'est une des spécificités de l'homme. On est une des rares espèces où les hommes, enfin plutôt les femmes, survivent au-delà de la période de reproduction. Et là, ils arrivent à trouver, effectivement, à démontrer ça, à démontrer qu'il y a un effet génétique qui expliquerait ça.
Et ça, Evelyne Heyer, c'est plutôt contre-intuitif, apparemment, pour une espèce animale. On est vraiment unique dans ce domaine-là ?
Oui, on est vraiment unique. Chez les grands singes, on voit quelques rares cas, mais dans le milieu naturel, très très peu. On est vraiment une des rares espèces de mammifères où, effectivement, on survit au-delà de la période de reproduction.
Mais alors, comment s'opère cette forme de sélection ? Comment les gènes permettant de vivre plus longtemps sont-ils sélectionnés dans la population ?
Ben, l'idée, c'est que si vous vivez même au-delà de la période de reproduction, vos enfants vont mieux survivre parce que vous pouvez vous en occuper plus longtemps. Et donc ça, c'est vraiment un trait spécifique à l'homme.
Mais l'envolée de l'espérance de vie de l'espèce humaine, c'est plutôt récent dans l'histoire de notre évolution. Est-ce que cette idée-là ne va pas vraiment à l'encontre de ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur cette étude ?
En fait, vous avez deux choses. Vous avez effectivement l'envolée, je dirais, les dernières années qu'on a gagnées, je dirais, ces dernières décennies. Mais d'une manière générale, même au Moyen-Âge, les gens survivaient au-delà de la période de reproduction.
Evelyne Heyer, donc ça, c'est un gros travail qui a été réalisé sur le génome de plus de 250 000 personnes. Juste un tout petit mot de méthodologie, parce que c'est intéressant. Comment ont procédé justement les scientifiques pour chercher les mutations génétiques, entre autres ? Comment on travaille ?
Eh ben, on compare des gens qui survivent plus vieux avec des gens qui survivent moins vieux et on trouve des facteurs génétiques différents entre les deux. Et finalement, ils trouvent deux variants qui finalement empêchent de vivre vieux, c'est-à-dire qu'on trouve moins chez les gens très âgés. Mmh. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'on se serait attendu à en trouver beaucoup plus s'il n'y avait pas eu de sélection naturelle. Et le fait que finalement, il n'y a pas beaucoup de variants qui empêchent de vivre vieux, ça veut dire qu'il y a de la sélection qui empêche les variants qui empêchent de vivre vieux.
Et comment s'assurer justement que cette sélection dont on parle, c'est bien une sélection naturelle et pas une sélection due au progrès de nos sociétés, par exemple ?
Ben là, d'après ce qu'ils trouvent, ce serait vraiment quelque chose plutôt d'ancien, mais ils ne datent pas de quand date ce phénomène-là.
Pourquoi, Evelyne Heyer, les autres espèces animales n'ont pas davantage à vivre très vieux comme nous, les hommes, par exemple ?
Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que chez les hommes, d'ailleurs, nous, on a pu le montrer en analysant des données démographiques, quand la mère meurt, ça diminue la survie des enfants, même si la mère meurt quand ils ont 10 ou 15 ans. Autrement dit, on a besoin, entre guillemets, de ses parents plus longtemps pour atteindre l'âge adulte. Donc, il y a une sélection même pour il y a une sélection pour survivre même au-delà de la reproduction de ses enfants. Et il y a aussi une hypothèse qui dit que quand on a une grand-mère, ça permet de mieux, ça augmente la survie des petits-enfants.
Ah oui, donc ce sont des avantages familiaux quasiment, on pourrait dire les choses comme ça ou pas ?
Tout à fait, peut le dire carrément comme ça.
Bon.
Les chercheurs montrent aussi une autre chose dans cette étude, c'est que avoir une puberté tardive et s'associer aussi avec une espérance de vie plus grande, est-ce que pour cette découverte-là, vous avez une explication ?
Bah, il y a quand même l'explication sociale. En général, quand on est dans un milieu où on a beaucoup de ressources, on voit chez l'homme qu'on commence à se reproduire plus tard. Et comme on a des meilleures ressources, on survit aussi plus longtemps. D'ailleurs, ils le disent, hein, c'est pas exclu que l'hypothèse soit environnementale, mais peut-être qu'il y aurait aussi des facteurs génétiques.
Comment mesurer vraiment aujourd'hui, en termes de génétique des populations, l'évolution d'une espèce comme nous qui s'éloigne petit à petit de ce qu'on pourrait appeler une sélection naturelle ?
Bah là, ce qu'on voit, en fait, c'est le résultat plutôt d'une sélection naturelle passée. Pour voir vraiment des choses qui ont lieu à l'heure actuelle, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir des données très précises sur plusieurs générations et on les a pas encore.
En tout cas, c'est une étude intéressante. Elle est surprenante, d'ailleurs, dans votre domaine de la génétique des populations, Evelyne Heyer, ou pas ?
Elle est vraiment très costaud en termes méthodologiques et puis elle permet de trier entre différentes hypothèses pour expliquer le fait qu'on survit au-delà de la période de reproduction.
Bon, ben voilà en tout cas une singularité de l'espèce humaine parmi les autres espèces animales et ça vient d'être publié dans la revue PLOS ONE. Merci beaucoup Evelyne Heyer. Un petit mot tout de même sur l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée de l'Homme à Paris, dont vous êtes l'une des commissaires scientifiques, nous et les autres, des préjugés au racisme. Il faut encore en dire un tout petit mot parce que elle a encore lieu pendant quelques mois, hein.
Ouais, elle a encore lieu pendant quelques mois, donc venez vite la voir, elle est vraiment super.
Voilà, pour avoir un peu plus de tolérance également par rapport à la question du racisme et puis toutes les études scientifiques qui ont été menées sur cette question. Merci beaucoup Evelyne Heyer, bonne journée à vous et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Les Lycaons votent en éternuement pour savoir si c'est le moment de partir en chasse. Cette espèce de canidée étudiée au Botswana possède une forme de démocratie. Avant chaque déplacement, la meute se rassemble et c'est une décision collective qui mène au départ. Les chercheurs à l'origine de cette découverte ont étudié plus de 68 rassemblements de Lycaons et montrent qu'il faut un minimum de 8 éternuements approbatifs pour mettre le groupe en route. Ils montrent également que le poids de chaque individu dans le vote est variable. Un mâle dominant aura besoin de 3 éternuements pour mobiliser ses troupes. Un mâle plus jeune ou plus faible aura lui besoin de 10 éternuements pour valider sa requête. La production de café en Amérique latine va subir de plein fouet le réchauffement climatique. Une étude prédictive du climat sur ce continent à l'horizon 2050 montre que les zones propices à la culture du café vont se réduire de plus de 88%, essentiellement au Nicaragua, au Honduras et au Venezuela. Les principaux facteurs de ce déclin sont l'élévation des températures et la diminution du nombre de pollinisateurs. Les chercheurs pensent qu'en commençant dès maintenant à diminuer les usages des pesticides et en favorisant le nombre d'espèces végétales autour des cultures, les producteurs pourraient minimiser leurs pertes et attirer de nouveaux pollinisateurs. Et puis l'ADN est formel, la tombe viking découverte dans le village de Birka en 1880 était celle d'une valeureuse et riche guerrière, enterrée avec son épée, sa hache, ses deux boucliers, quelques lances et 2 chevaux de guerre. Elle faisait certainement partie de l'élite de son peuple. C'est la première preuve de la présence d'une femme dans les plus hauts rangs des armées vikings. Des pièces de bois servant à la planification des batailles, découvertes également dans sa sépulture, laissent penser qu'elle aurait ainsi pu être une tacticienne au sein du groupe. Une découverte qui va certainement conduire à l'analyse ADN d'autres sépultures vikings pour savoir si la présence de femmes dans les armées était finalement courante. Et nous partons vers Saturne et Titan dans un instant.
Elle m'a dit tu rêves, tu rêves. Tu rêves dans tes rêves. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves dans tes rêves. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves dans tes rêves.
J'étais avec F. Même plus comment on avait atterri dans cette race. Le genre d'endroit où il est difficile de ne pas croiser au minimum une ex-maîtresse. À l'heure où les mignonnes secouent leurs hanches et où les chasseurs préparent tous leurs plans, elle m'est apparue seule au fond de la boîte comme un crayon couleur blanc. Le temps s'est arrêté pendant quelques secondes. J'étais figé me demandant est-elle de ce monde. Trop belle pour un décor aussi laid. Le charisme et l'élégance d'une actrice de ciné. Si ce moment était une chanson, j'aurais kiffé mettre un pull-up. L'impression de regarder un film en noir et blanc où elle était la seule à être en couleur. J'ai bu mon verre sec, j'ai rafraîchi mon haleine, puis je suis parti lui parler. Elle s'est retournée d'un air dédaigneux et ses yeux semblaient dire qu'elle espérait mieux. Elle m'a dit tu vois ma pote là-bas, tu l'as draguée des semaines, puis tu la ken et tu l'as jamais rappelée. Donc épargne-moi tes beaux discours, c'est dead, la porte s'est refermée, elle a jeté la clé.
Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves dans tes rêves. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves.
Donne-moi de la lumière pour mes pensées, du noir pour m'y plonger, de l'encre pour m'épancher. Un buvard pour m'éponger, une goutte sur le plancher. Pas encore droit mais je vais m'y pencher. Je pensais que ma dernière copine serait ma dernière copine. Est-ce de ma faute si je me lasse en 6 mois? Mon cœur est si dur, mes relations si molles. Victime de ma réputation, au point de finir écœuré plus d'un soir. Je t'ai vu, t'as décliné mon invitation. Je voulais juste parler, t'aurais pu t'asseoir. Tous ces combats intérieurs que je n'ai pas terminés m'éprouvent. Je trouve ça triste avec du recul comme le freestyle dans la voiture des mines m'éprouve. Tu crois que pour moi c'est un jeu tellement t'es voulu, mais c'est sur toi que j'ai jeté mon dévolu. J'ai connu des aventures qui n'en étaient pas. Nouveau départ, j'étais jeune, tout le monde évolue. Mes sentiments je les cache, laisse-moi te libérer de ta jolie cage. Efface donc ces défauts que je ne garderai jamais. On sera comme June Carter et Johnny Cash.
m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves, donc tu rêves. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves.
La tête au carré sur France Inter.
Cassini mesure presque 7 mètres de haut pour 4 mètres de large. C'est un monstre au regard des critères de la conquête spatiale. Avec son carburant et la sonde Huygens, le vaisseau pèse près de 6 tonnes, 7 fois plus que la sonde Voyager. Le 15 octobre 1997, à 4h43, le monstre et son précieux chargement s'arrachent du pas de tir numéro 40. Le voyage le plus ambitieux de l'ère spatiale commence.
Atteindre Saturne, c'est très compliqué. Et la fusée dont on disposait à l'époque n'avait pas assez de puissance pour envoyer le vaisseau directement vers Saturne. Ce qu'on a dû faire, c'est donc s'éloigner et puis revenir vers Vénus pour utiliser son champ d'attraction. C'est ce qu'on appelle la fronde gravitationnelle. En effectuant ces différents survols, on a pu gagner assez d'énergie pour atteindre Saturne. C'est pour ça que ça nous a pris 7 ans.
Voilà quelques-unes des curiosités que vous pourrez donc découvrir dans ce documentaire à la conquête de Titan ce soir sur France 5 et le grand final pour la sonde Cassini, dossier de l'émission cet après-midi pour raconter cette épopée qui a permis donc à cette mission d'explorer Saturne comme jamais, de nous envoyer des photos absolument exceptionnelles de Saturne et de ses anneaux et puis également de sa lune Titan. Et pour nous raconter ce voyage sidéral et sidérant, eh bien Jean-Pierre Le Breton est avec nous. Vous êtes planétologue, responsable scientifique et technique de la mission Huygens. Donc c'est cette mission qui s'est posée sur Titan entre 1984 et 2011. C'était pour l'ESA. Et Sandrine Guerlet, vous êtes chargée de recherche au CNRS, planétologue au laboratoire de météorologie dynamique à Paris et membre de l'équipe scientifique de Cassini. Et Frédéric Ramann, donc c'est vous le réalisateur de ce documentaire avec cet événement pour le public qui aura lieu vendredi, notez bien, de 11h à 15h à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris avec la retransmission en direct de la sonde Cassini-Huygens. L'entrée sera gratuite et les auditeurs peuvent nous rejoindre dès maintenant avec les messages et les questions. Jean-Pierre Le Breton, on entendait justement cette histoire de fronde gravitationnelle. Ça, c'est absolument incroyable. Hein. C'est la façon qu'on a trouvée pour parvenir jusqu'à Saturne.
En fait, la fronde gravitationnelle est utilisée depuis relativement longtemps. Alors ouais. Je ne pourrais pas dire quelle est la première mission qui l'a utilisée, mais maintenant, c'est une technique de propulsion qui est bien maîtrisée. Mmh. Et sans cette fronde gravitationnelle qu'on a utilisée deux fois au-dessus de Vénus, une fois au-dessus de la Terre et une fois au-dessus de Jupiter, on n'aurait jamais pu atteindre Saturne avec ce vaisseau de presque 6 tonnes.
Ouais. Donc Cassini a fait combien de fois le tour de la Terre avant de partir dans la bonne direction?
Alors, Cassini n'a pas fait le tour de la Terre. Cassini a fait un survol de la Terre après deux survols de Vénus.
C'est ça.
Ça a pris 3 ans.
Ouais.
Et ensuite, en 2000, fin 2000, le survol de Jupiter qui nous a propulsés vers Saturne.
Ouais, ça permet quoi d'abord d'emmener la sonde là où on veut, mais surtout d'économiser du carburant aussi
En fait, c'est même plus qu'économiser du carburant parce qu'on ne pourrait pas emporter suffisamment de carburant à bord du vaisseau pour pouvoir accomplir la trajectoire que l'on a accomplie et surtout envoyer ce gros vaisseau vers Saturne.
Ouais, c'est un problème de carburant qui signe la fin de Cassini aujourd'hui ou pas?
En effet, c'est un problème de carburant. Cassini avait environ 3 tonnes de carburant. Les réservoirs sont presque vides.
Aïe, aïe, aïe.
Et il a fallu garder quelques litres ou quelques kilogrammes de carburant pour corriger un petit problème au cas où. Il n'y a pas eu de problème. Mais là, il faut vraiment terminer la mission parce que plus de carburant voudrait dire que Cassini pourrait devenir incontrôlable et se cracher sur l'une des lunes que l'on veut vraiment protéger, les deux lunes particulièrement que l'on veut protéger pour l'exploration future, Titan et Encelade.
Sandrine Garlet, on pourrait presque dire que c'est un problème écologique aussi qui fait qu'on stoppe la mission Cassini la vendredi dans l'atmosphère de Saturne.
Vous voulez dire qu'elle va contaminer Saturne?
Bah justement, le fait de ne pas contaminer les lunes dont
on
parle Jean-Pierre Le Breton.
Oui, on ne peut pas contaminer ces lunes parce que d'importantes découvertes ont été faites.
Ouais.
Donc sur Titan, dans son atmosphère épaisse et composée d'azote et de méthane, il y a de nombreuses réactions chimiques qui laisseraient penser que ça ressemble un petit peu à la chimie prébiotique sur Terre.
Ah oui.
Et sur Encelade, alors là c'était complètement inattendu, on a vu donc des fractures, des geysers de l'activité géothermale liée à un océan liquide sous cette croûte de glace. C'était complètement inattendu.
Ouais.
Et qui dit eau liquide et source de chaleur dit aussi éventuellement réaction chimique propice à des premières briques de vie.
C'est
et donc
ça.
On veut absolument le protéger.
Ouais, tout ça c'est hyper important évidemment pour la connaissance hein, que nous aimerions avoir des premières traces de vie en tout cas, la façon dont la vie émerge.
Oui c'est ça et on ne s'y attendait pas à la trouver aussi loin. Et c'est vrai que c'est un nouveau champ d'études, ces mondes avec un océan sous la surface comme on a Europe aussi autour de Jupiter.
Ouais,
c'est un nouvel endroit où chercher des potentielles traces de vie au sens vraiment première brique des molécules complexes.
Ouais. Et bien sur Titan aussi on a de l'eau liquide alors en sous-sol ou pas?
Alors sous la couche de glace de Titan qui est d'une épaisseur environ 100 km, on a en effet une couche d'eau liquide de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur.
Ouais.
Et c'est aussi un autre endroit où éventuellement il pourrait se développer ces formes de vie primitive dont Sandrine parlait à l'instant dans Encelade.
Ouais. Frédéric Raman, alors vous racontez justement dans le documentaire de ce soir toutes les étapes de cette mission à haut risque, le nombre de rebondissements, mais c'est absolument incroyable.
Ah,
hein.
C'est une vraie aventure.
On frémit avec les scientifiques en permanence avec Cassini. Hein.
Tout à fait. Bah, je dirais ce qui était au départ de cette envie de film, c'est effectivement de revenir sur toute cette aventure, hein, parce que c'est une vraie aventure et fait assez rare, c'est une aventure qui est européano-américaine.
Ouais.
Donc c'est la première fois qu'autant de scientifiques ont collaboré à une mission qui était une mission qui ne s'était jamais faite.
Ouais.
Et puisqu'il s'agissait non seulement d'envoyer un vaisseau à l'autre bout du système solaire, à plus d'un milliard et demi de kilomètres, mais aussi d'y déposer une sonde, Huygens, développée par les Européens, afin d'effectuer des prélèvements dans l'atmosphère de Titan et même à sa surface.
Ouais.
C'est vraiment une première, puisque envoyer un tel appareil aussi loin, dans des conditions aussi extrêmes, et dans un environnement au final qu'on ne connaissait pas, puisque l'atmosphère de Titan empêche son observation depuis la Terre ou même depuis des satellites, on partait un peu à l'inconnu. Enfin, les scientifiques partaient à l'inconnu. Vous voyez, je dis « on », je suis tellement rentré dans cette histoire, j'ai l'impression de l'avoir vécu.
Et ça se sent.
Et c'est ce qu'on a essayé de, c'est ce qu'on a fait à travers ce film, mettre en scène tout ce voyage qui est assez extraordinaire, afin que les spectateurs puissent partir bien dans l'espace.
Alors vous nous emmenez étape par étape, et c'est passionnant. Et alors vous avez rencontré tous les scientifiques, comme Jean-Pierre Le Breton, justement, les grands acteurs de cette mission.
Les grands acteurs.
Qui ont, alors ça c'est absolument stupéfiant du point de vue du métier même de scientifique, parce qu'il faut quand même être d'une patience absolument incroyable, hein, Jean-Pierre Le Breton. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur la mission? Parce que la mission en elle-même déjà c'est 20 ans. Mais avant que ça décolle, hein, en 97, vous aviez déjà travaillé dessus.
En fait oui, 20 ans depuis le lancement. Mais le début de la mission, bon, pour moi, c'est en 1984, lorsqu'on a commencé cette étude de la mission qui s'appelait Cassini à l'époque, étude conjointe entre les Américains et les Européens. Mais la proposition de cette mission a été faite en 1982 par un groupe de scientifiques européens à l'Agence spatiale européenne sous la direction d'un chercheur de l'Observatoire de Paris, Daniel Gauthier, que je tiens à honorer ici. Et donc en 82, il propose cette mission à l'Agence spatiale européenne en disant voilà, c'est la mission qu'il faut faire après les voyageurs, mais bien sûr la faire en collaboration américaine. Ça a été le début de l'aventure.
C'est ça. On vous a pas pris pour un fou à l'époque?
Je pense que Daniel Gauthier et ses collègues, surtout qu'ils avaient envoyé la proposition au CNES, le CNES aurait dit non, écoutez les gars, non, là,
c'est
pas,
ça.
Non, c'est trop ambitieux, là, allez voir l'ESA directement.
Et ça, on voit très bien dans le documentaire, Frédéric Raman, justement, c'est ce projet totalement inouï pour l'époque. D'envoyer un objet aussi loin, se poser qui plus est sur une lune de Saturne.
Et puis ce qu'on a du mal à imaginer avec ces temps longs, c'est que ben, non seulement il faut que le petit moteur qu'on a mis à tel endroit du vaisseau ou de la sonde, eh bien, il va falloir qu'il se déclenche 7 ans plus tard, dans un environnement où il fait moins 180 degrés.
Après avoir traversé les anneaux de Saturne, parce qu'il y avait quand même un danger à franchir.
Voilà, après avoir évité pas mal d'embûches, il faut que tout ça fonctionne. Et pendant ce temps-là, ce qu'on oublie aussi, c'est que on prévoit les instruments qui doivent fonctionner 20 ans plus tard,
c'est
et donc avec une technologie qui, évidemment, la technologie évolue énormément, très vite. Et ce qu'on en voit là-bas, eh bien, il faut que ça puisse durer dans le temps.
Ouais. Sandrine Garlet, vous êtes de la jeune génération, hein, on pourrait dire quasiment.
C'est
sur,
ça, moi je suis née en 84.
Vous êtes née en 84 et vous avez commencé à travailler sur Cassini Huygens en quelle année?
Il y a une dizaine d'années, ouais. Pour ma thèse. Donc j'ai eu la chance, en fait, moi, quand Cassini était envoyé, j'étais au collège. Quand elle est arrivée en orbite autour de Saturne, j'étais étudiante. Et ensuite,
mais vous avez des souvenirs de cette période-là? C'est quelque chose qui vous avait marqué
ou... Oui, l'arrivée, et surtout l'arrivée de Huygens, c'est ça, je m'en souviens. Quand j'étais étudiante, j'avais...
Donc l'atterrissage de Huygens sur Titan, hein, évidemment. Ouais. Jean-Pierre Le Breton, il faut être très patient quand même, non, pour faire ce métier?
Il faut être patient, bien sûr, parce qu'on sait maintenant que, on le savait dès le départ, que cette mission serait un long fleuve, plus de plusieurs dizaines d'années. Oui. Mais je crois que je voudrais aussi encourager les jeunes chercheurs à être aussi patients, même peut-être plus patients, parce que les missions futures qu'on aimerait bien voir naître un jour, elles iront vers Saturne, mais au-delà, et il faudra aussi de la patience. Donc la patience, c'est en effet quelque chose, une qualité importante pour un chercheur qui veut explorer, explorer ces mondes lointains.
Ou d'aller au-delà, alors ce serait où?
Oh bien, retourner vers Saturne, bien sûr, Saturne, Titan, Célade, ce sont des cibles privilégiées, mais aller au-delà, Neptune, Uranus, les deux, l'un ou l'autre. Mm-hmm. Les scientifiques sont en train de se poser la question actuellement. Il y a des envies d'aller vers Uranus et Neptune.
Ouais. Frédéric Ramel, parce que vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes, j'aimerais quand même qu'on dise un mot sur vraiment la proposition que vous faites dans ce documentaire à la fin du film, celle d'aller coloniser Titan, c'est-à-dire vraiment d'emmener des hommes vers Titan, ce qui paraît là aussi complètement dingue. On a déjà du mal à en envoyer à nouveau sur la Lune ou sur Mars, mais alors là, Titan, c'est fou. On va écouter justement un extrait, on en parle juste après.
Pour nous établir sur Titan, il nous faudra tout d'abord construire une base pérenne, utilisant les ressources locales. Les premiers colons seront des scientifiques. Leur mission principale sera dans un premier temps d'assurer leur survie. Pour cela, ils devront relever des défis considérables, au premier rang desquels la maîtrise de leur autosuffisance alimentaire. Une maîtrise qui passera par une connaissance accrue des ressources de leur nouvel environnement. Une maîtrise de tous les instants, sans laquelle il ne sera pas possible d'accueillir de nouveaux arrivants et d'agrandir la colonie. Avec l'arrivée de nouveaux colons et les premières générations nées sur place, les Titaniens étendront leur territoire à l'ensemble du globe. Ils s'inventeront une culture, des lois, un système économique, une histoire. Ils passeront de la simple survie au développement. Ils fonderont une nouvelle civilisation.
Carrément. Alors, vous n'y avez pas avec le dos de la cuillère, Frédéric Ramel.
Il faut faire envie, hein, de temps en temps.
Non, mais là, sincèrement, vous êtes fait plaisir, hein, à la fin du doc, ou vous vous êtes basé sur des projets sérieux d'ingénieurs?
Non, c'est vraiment basé sur des projets sérieux qui ont, et surtout sur un livre, donc, d'une américaine qui s'appelle Amanda Hendricks,
qui figure
dans le documentaire, et qui a vraiment étudié, tout ce qu'il faudrait pour qu'on puisse aller vers Titan, et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse s'installer sur Titan, et où on en est au niveau,
faisabilité,
aujourd'hui, mm-hmm. Et compte tenu de l'évolution des sciences et techniques, et des bons énormes qu'on a pu parcourir en l'espace de 50 ans, c'est une projection sur ce qui pourrait être envisageable. Donc j'avais envie non seulement de retracer l'aventure qu'a signé Huygens, mais d'aller plus loin, d'essayer de voir dans quelles conditions on pouvait aller plus loin, compte tenu de l'unicité, de ce caractère exceptionnel de Titan, et de poser les bases des futures missions, de qu'est-ce qu'il nous faudrait en plus pour aller là-bas, pour y retourner, et compte tenu de la distance, les scénarios penchent pour une installation pérenne pour pouvoir développer les choses. Et avec des conditions propres à Titan qui sont assez exceptionnelles, puisque l'atmosphère permet d'être protégée des radiations spatiales. Les matières organiques dont on a maintenant la quasi-certitude qu'elles se trouvent là-bas et sur lesquelles se déroule énormément l'expérience qui sont développées dans le film, dont on parle dans le film, permettraient d'assurer des plantations.
Enfin, il fait quand même moins 180 degrés sur Titan.
Il fait moins 180 degrés, mais la pression atmosphérique n'est pas du tout comme sur Mars. On n'a pas besoin d'avoir un énorme scaphandre pressurisé. Il y a énormément d'hydrocarbures, donc des ressources en énergie. Je ne dirais pas que ce sera le séjour le plus agréable pour les terriens.
Oui, bon, on n'a pas envie d'y aller, personnellement.
C'est une solution qui est à envisager.
Et c'est un aller simple. Hein,
c'est un aller simple.
Parce qu'il n'y aura pas de retour.
Mais comme le disait Jean-Pierre, évidemment, on a poussé, je dirais, le bouchon assez loin avec ce scénario un petit peu de science-fiction pour voir jusqu'où on peut aller. Mais quand même, il y a cette envie d'aller plus loin, Neptune, et ce fantasme de pouvoir sortir du système solaire. Ouais. Et compte tenu de ses ressources énergétiques, Titan et tout le système saturnien pourraient être une sorte de base, de dernière station-service avant la sortie du système.
C'est ça. Et à quel horizon ce serait imaginable de pouvoir aller coloniser Titan, Jean-Pierre Le Breton ? Un chiffre, lancez-vous, osez !
Allez, dans un siècle.
Ah, dans un siècle, pas avant ?
Dans un siècle.
Ah oui, donc on a le temps, là, effectivement.
Raisonnablement, dans un siècle.
Oui, et avant, il faut d'abord aller sur Mars.
Il faut d'abord aller sur Mars.
La première étape.
Ce sera sans doute la première étape.
Ouais. Allez, on vous laisse filer, Frédéric Ramad. En attendant, merci, on regarde votre documentaire et on continue à en parler dans un instant. La conquête de Titan, 20h50, hein, ce soir sur France 5.
Merci.
Et les messages des auditeurs qui nous rejoignent tout de suite.
Lantern strains. Are we just too far to be as one again? Are we obsidian? Is this how it ends? Yeah, your life will turn just like a straw, 'cause your daddy's vain and your mother won't, and your heart engages into heartless roles. Are we obsidian? Is this how it goes? When your private life is dreaming, when you will find the life you're needing, light off you, you may find some peace. All will come to view if you come with me. Are we just too far to be as one again? Are we obsidian? Is this how it is?
Gorillaz à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Avec mes invités Jean-Pierre Le Breton et Sandrine Guerlet, planétologues, pour parler donc de cette mission Cassini qui va se terminer après 20 ans de voyage. 20 ans, c'était le décollage. Et puis donc vendredi, eh bien, ça va être la fin, pulvérisation dans l'atmosphère de Saturne. Jean-Pierre Le Breton, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Parce qu'on va pouvoir y assister en direct depuis la Cité des Sciences à Paris.
Alors, on va pouvoir y assister en direct. En effet, on aura la liaison radio. Cassini va être en liaison radio avec la Terre, donc en direct. On aura le signal radio qui, à un moment donné, va disparaître parce que la sonde va commencer à être déstabilisée dans les hautes couches de l'atmosphère. Dès qu'elle rencontre les hautes couches de l'atmosphère, la sonde va être déstabilisée, donc l'antenne ne pointera plus vers la Terre. Mmh. Et quelques instants plus tard, la sonde va commencer à se désintégrer. Ouais. Elle chauffera beaucoup et comme elle n'est pas du tout conçue pour rentrer dans une atmosphère à très grande vitesse, elle va se désintégrer, se pulvériser se transformer en poussière.
Sandrine Guerlet, est-ce qu'on pourra faire de la science jusqu'au bout quand même avec Cassini ? Est-ce qu'on va essayer justement d'avoir des dernières données là ?
Oui, Cassini dit aucune sonde n'a jamais plongé dans l'atmosphère de Saturne et sur les 12 instruments, 8 seront allumés.
Oui.
Et vont transmettre jusqu'à la dernière seconde. Et notamment, la priorité, c'est un des instruments qui peut faire des mesures in situ des gaz et donc de la composition de la haute atmosphère de Saturne.
Ouais, donc ça, ça fait une grande première.
Grande première, oui.
Ouais. Et vous attendez les résultats pour quand alors? Entre l'entrée dans l'atmosphère et puis ensuite les données que vous allez recevoir sur Terre, il va s'écouler combien de temps?
Les données arrivent au bout d'une heure, mais après il faut les analyser, les interpréter, mais je pense que les gens sont préparés à ça depuis quand même.
C'est vrai. Ouais. Les scientifiques attendent vraiment avec beaucoup d'impatience les résultats.
Les scientifiques attendent avec énormément d'impatience.
C'est vrai.
Et en plus, ils recevront les données après une heure et quelques minutes de temps de trajet entre Saturne et la Terre, à la vitesse de la lumière, mais ils vont tout de suite se mettre à l'analyse des données.
Incroyable.
Et dans la soirée ou le lendemain, il y aura déjà des résultats concrets qui pourront être montrés.
Qu'est-ce qu'on attend de ces résultats de l'atmosphère saturnienne?
Bien, comme le dit Sandrine, c'est une atmosphère qu'on ne connaît pas, et ce sera la première fois qu'une sonde fera des mesures in situ de la composition de l'atmosphère. Alors bien sûr, on sait ce qu'il y a dans l'atmosphère, mais il y a de l'hydrogène, un peu d'hélium, mais les composés mineurs, et ça, c'est là que ça devient intéressant, c'est que les composés mineurs vont être révélés avec ces mesures in situ.
Ouais, alors, il y a beaucoup de questions sur Saturne et ses anneaux. Paul dit, y a-t-il du vide entre les anneaux de Saturne? Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces anneaux? Sandrine Guerlet.
Alors, les anneaux, donc, c'est un agglomérat de plein de petits blocs de glace. Et donc, oui, il y a des espaces vides. En fait, les anneaux, c'est 7 anneaux concentriques avec du vide entre, oui. Oui, oui. C'est pas quelque chose de lisse et de continu, de rigide. Pas du tout. C'est plein de petits blocs.
Vincent demande, ces anneaux de Saturne sont composés uniquement de morceaux de glace, Jean-Pierre Le Breton?
Alors, c'est à peu près 98-99% de glace et il y a matière organique. Et d'ailleurs, la concentration en matière organique dépend de l'anneau, de quel anneau on étudie. Et il y a une variation, je ne sais plus dans quel sens, de la distance par rapport à Saturne sur les anneaux, une variation de la composition en matière organique. Mais 98-99%, c'est de la glace d'eau.
Ouais. Matière organique, ça, quand on vous prononce ça, évidemment, on se dit la vie, alors...
Alors, dans les anneaux, non, il n'y a pas... Mais la matière organique, il y en a beaucoup dans Titan. Et c'est vraiment là la grande réserve de matière organique Titan. D'ailleurs, c'est un grand réservoir de gaz naturel, le méthane du gaz naturel.
Ouais.
Et il y a des estimations. Il y a peut-être 100 ou plusieurs centaines de fois la quantité de méthane dans Titan, dans l'atmosphère à la surface et à l'intérieur que sur Terre.
Ouais. Mais donc, ça, on le voit très bien dans le documentaire. C'est-à-dire que Titan, ce sont des rivières et des mers de méthane, en fait.
C'est ça.
C'est ça dont il s'agit, hein, Sandrine Guerlet.
Oui, et on a même pu voir au cours des saisons l'évaporation de ces lacs, la formation de nuages de méthane et la pluie de méthane. Il y a un cycle analogue...
Il pleut du méthane.
Tout à fait. Il y a un cycle analogue au cycle hydrologique sur Terre, mais avec du méthane.
Ouais. Et cette eau liquide souterraine, alors, sur Titan, est-ce qu'on a une idée de sa nature ou pas?
Je passe la question à Jean-Pierre.
En fait, c'est de l'eau liquide. Hein. Elle est coincée entre deux couches de glace. La croûte de glace. Et ensuite, il y a une autre couche de glace de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. Mmh. Et enfin, on atteint le noyau. Donc, cette couche d'eau liquide, c'est de l'eau liquide. Elle est sans doute chargée aussi en matière organique, peut-être en sel, peut-être en ammoniac. Mmh. Il y a plein d'hypothèses et pour l'instant on n'a pas bien sûr pas de confirmation de ce qu'il y a dans cette eau, mais c'est principalement de l'eau liquide.
De quoi est composée l'atmosphère de Titan, demande Claire sur franceinter.fr.
Alors l'atmosphère de Titan, c'est 95% d'azote comme sur Terre, et 5% de méthane dans la basse atmosphère à partir de la tropopause. Au-delà, c'est 1,5% de méthane. Mais il y a énormément de méthane, de matière organique, donc le gaz naturel. Et la décomposition du méthane engendre toute cette chimie organique dont Sandrine parlait.
Qu'est-ce que c'est la tropopause, Jean-Pierre Le Breton?
La tropopause, c'est comme sur Terre, c'est environ 12-15 km d'altitude.
Ouais.
Sur Titan, c'est 45 km d'altitude. C'est l'endroit où la courbe de température commence à s'inverser, comme sur Terre, en quelque sorte.
Ouais. Sandrine Guerlet, c'était vraiment une priorité d'essayer d'aller se poser sur Titan, justement parce qu'elle peut nous donner énormément d'informations sur les briques de la vie.
Oui, tout à fait. Donc, il y a une chimie très, très complexe. Donc, le méthane se fait ce qu'on appelle photodissocié par le rayonnement solaire. Et ensuite, ça déclenche toute une photochimie très riche. Et il y a plein de molécules carbonées de plus en plus complexes qui sont créées, qui créent toute cette brume aussi d'aérosol. Et à partir de là, oui, on voulait savoir, mais s'il y a cette matière organique, est-ce qu'il n'y a pas un peu plus, quoi.
Ouais.
Et on voit les parallèles avec la Terre primitive, qui était couverte aussi de brume il y a je ne sais combien de milliards d'années.
Donc c'est une sorte de laboratoire, hein, grandeur nature là, évidemment, qui pourrait vraiment nous renseigner sur le scénario d'émergence de la vie.
Oui, on peut y trouver des similarités, et en effet on ne peut plus étudier la Terre primitive, c'était il y a trop longtemps, mais Titan, elle est à notre portée.
Ouais. Un retour d'échantillon, ce serait possible ou pas depuis wow. Titan, parce que là évidemment ce seraient les pièces à conviction, hein, Jean-Pierre Le Breton.
Ah ça serait un retour
pareil sur Saturne, hein, pour les anneaux, si on avait de la glace saturnienne.
Le retour d'échantillons, c'est un peu le graal de l'exploration du système solaire. On aimerait récupérer des échantillons de beaucoup d'objets du système solaire. Ouais. Mais un retour d'échantillons de Titan, il faudra aller le chercher à la surface et ensuite décoller de la surface, le ramener sur Terre. Ça sera vraiment une mission, pour l'instant, c'est une mission impossible.
Christophe demande, est-ce que Saturne est la seule planète à posséder des anneaux? Ah ben c'est bon de le rappeler, ça, justement,
pas du
Sandrine
tout.
Guerlet.
Quatre planètes géantes ont toutes des anneaux. Ceux de Saturne sont les plus remarquables, mais Jupiter, Uranus, Neptune ont aussi
Pourquoi
des anneaux.
Pourquoi on ne représente jamais, d'ailleurs, Neptune avec ses anneaux?
Ils sont beaucoup plus fins et diffus. Donc on a des images des anneaux, mais c'est vrai qu'elles sont moins connues, c'est dommage.
Ouais, Jean-Pierre Le Breton.
Et d'ailleurs, les anneaux de Neptune ont été découverts grâce à André Braïk, qui malheureusement n'est plus parmi nous, mais je voudrais rendre un petit salut. Un petit salut à André, parce que la mission Cassini, c'est une mission qu'il suivait, dans laquelle il était très impliqué. Donc,
il nous en a beaucoup parlé à ce micro, d'ailleurs. Il y a Jérôme qui nous écrit, à l'occasion de cette émission, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée très émue, justement, pour André Braïk, astrophysicien, que nous aimions beaucoup. Allez, à la conquête de Titan, on poursuit cette discussion, et celle de Saturne, évidemment, avec les messages franceinter.fr. Et c'est la voix de Féloche à l'instant sur France Inter avec la mission Cassini-Huygens, le grand final. Ce sera donc vendredi à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Retransmission en direct de l'ultime plongeon, ça c'est pour le public, l'entrée est gratuite. Il y a d'ailleurs Rémi qui nous pose cette question, Sandrine Guerlet et Jean-Pierre Le Breton. Est-ce que vous parlez de suivre en direct la fin de cette mission, mais il y a quand même un certain temps pour que les ondes radio nous parviennent? Comment ça va se passer vendredi, Jean-Pierre Le Breton?
Alors en fait, Cassini va être en liaison, donc en liaison directe avec la Terre, donc son antenne va être tournée vers la Terre. Cassini émettra ses signaux radio qui, en effet, mettront un peu plus d'une heure. Alors je crois que c'est 70-80 minutes à la vitesse de la lumière. Mm-hmm. Je pourrais faire le calcul pour nous parvenir. Mais on parle de direct parce qu'on se recale très facilement.
C'est ça.
Donc sur Terre, ce qu'on recevra sur Terre est parti de Cassini, de Saturne, il y a environ 70 à 80 minutes.
Ouais, donc ça commence à 11h jusqu'à 15h. La plupart de vos confrères sont aux États-Unis, Sandrine Gerlet, en ce moment même. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous partis là-bas alors ?
Oui, sur la côte ouest, dans un des laboratoires de la NASA. Historiquement, c'est là-bas qu'il y a le centre de contrôle des opérations et ils vont suivre aussi en direct de leur côté.
Donc c'est depuis là-bas qu'on a piloté Cassini et Huygens au moment de l'atterrissage sur Titan, Jean-Pierre Le Breton ?
Alors, le pilotage de Huygens, en fait, le largage de Huygens, qui était accroché à Cassini pendant 7 ans, a été piloté par le JPL. Et ensuite, Huygens, il ne pouvait pas être piloté. Tout était automatique, la séquence était programmée, mais le centre de réception et d'analyse des données, en passant par Pasadena d'ailleurs, était à Darmstadt, en Allemagne, le centre des opérations de l'Agence spatiale européenne.
Ouais. Sandrine Gerlet, on le voit d'ailleurs dans le documentaire de France 5 ce soir, le passage des anneaux de Saturne pour la sonde Cassini, ça a été vraiment un moment de tension pour les scientifiques parce qu'ils ne savaient pas si Cassini allait passer cette étape. Hein.
Oui, c'est vrai, puisqu'on ne connaissait pas en détail la structure des anneaux, la taille des particules. Est-ce que c'est vraiment vide à cet endroit-là ou est-ce que la moindre poussière à ces vitesses aurait pu endommager la sonde ? Et c'est vrai aussi pour la dernière phase de la mission, parce qu'on parle du plongeon, mais il faut savoir que la dernière phase de la mission s'est ouverte il y a 5 mois. Et depuis 5 mois, toutes les semaines, la sonde Cassini passe entre le haut de l'atmosphère et le bord interne des anneaux. Donc ça, c'est toute la phase qui s'appelle le grand final de la mission. Oui. Et donc là aussi, il y avait un risque non nul que la sonde soit endommagée, mais ça n'a pas été le cas.
Jean-Pierre Le Breton, c'était un coup de chance formidable ou finalement, il y a quand même de grandes chances que ça passe entre les anneaux de Saturne ?
En fait, il y a eu un coup de chance dans la mesure où il n'y a pas grand-chose. Parce que les modèles, les prédictions indiquaient qu'il y aurait peut-être beaucoup de poussière et en fait il y en a très peu. Et ça c'est une découverte en soi. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est vide en quelque sorte ? Il n'y a pratiquement pas de poussière. Et ça les scientifiques devront analyser cette découverte parce que c'est une découverte importante.
Ouais. Jean-Pierre Le Breton, on va vous écouter. C'était le 15 janvier 2005. C'est un document d'archives qu'on voit dans le film. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est une conférence de presse. Il y a un moment important à annoncer aux journalistes.
Alors c'était, je vais regarder l'extrait, c'était la conférence de presse à Darmstadt lorsqu'on montrait les premières données, pas seulement les premières images, les premières données enregistrées par la sonde. On avait montré les premières images la veille au soir, mais là on montrait le premier panorama. Donc toutes les images avaient été recollées
ensemble.
Absolument,
c'est le paysage.
Paysage en quelque sorte.
On va l'écouter, c'est en anglais, on a laissé en anglais, vous nous ferez une petite traduction parce qu'on voulait écouter votre bel accent French.
I'm very, very happy to report that we have received a very good data set, which will surely allow us to achieve all our objectives, and probably more than what we had initially set up. So I must say, after a night of very hard work by all teams, we can now start to see a clearer picture of Titan emerging.
Titan, le paysage de Titan. Voilà. Vous livriez donc ces photos.
On montrait ces premières photos et donc j'annonçais en quelque sorte qu'on était vraiment très heureux. On avait reçu.
Il y a une émotion. Vous aviez quasiment la larme à l'œil.
Oui, bien sûr. Ouais. D'autant plus que la nuit avait été courte et on savait déjà le lendemain qu'on avait un excellent jeu de données et qu'on allait pouvoir s'amuser entre guillemets. Les scientifiques allaient pouvoir s'amuser pendant des années pour analyser, interpréter ces données.
Des jeunes scientifiques comme Sandrine Gerlet, qui était là depuis peu de temps et qui découvre ces paysages, on en parlait, ces rivières de méthane, il y a des dunes évidemment sur Titan, et vous voyez ces clichés, et c'est incroyable quand même, non ?
Oui, incroyable, moi c'est ce qui a motivé en partie mon choix de carrière aussi, en effet.
Il y a Romaric qui nous dit, avec le survol de Saturne et cet atterrissage sur Titan, est-ce qu'on a enregistré des éclairs ou des tempêtes ? Parce qu'il y en a de sacrés sur Saturne.
Sur Saturne, on a détecté des éclairs d'orage, à la fois du côté jour et du côté nuit. C'était une première. Depuis la Terre, on ne pourrait pas voir ça. Il n'y a que Cassini qui était aux premières loges pour voir ces orages. Mais sur Titan, je ne crois pas qu'on ait vu d'éclairs.
Sur Titan, on a aussi des gros nuages, il y a sans doute des tempêtes, des bourrasques de pluie aussi, des bourrasques de vent, mais il n'y a pas d'éclairs. Alors il n'y a pas d'éclairs, ça a d'ailleurs été un sujet d'étude. Il y avait un instrument à bord de Huygens dont l'objectif était de détecter ces éclairs. Il n'y a pas d'éclairs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite différence entre la molécule d'eau et la molécule de méthane. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la molécule d'eau est polaire, elle peut se polariser, et donc, alors que la molécule de méthane ne peut pas se polariser. Donc les éclairs ne peuvent pas se fabriquer en quelque sorte dans l'atmosphère de Titan.
Ouais. Une année sur Titan, une année sur Saturne, Sandrine Gallet, ça dure combien de temps pour
quasiment
qu'on se rende compte ?
30 ans.
30 ans, une année saturnienne ?
Oui, c'est ça. Donc malgré l'extrême longévité de Cassini, elle est restée 13 ans, donc a vu une demi-année sur Saturne et Titan. Donc quand elle est arrivée, c'était l'été dans l'hémisphère sud, donc les pôles nord de Saturne et Titan étaient plongés dans la nuit polaire, et on a pu voir leur émergence vers l'été. Le solstice d'été sur Saturne a lieu cette année, par exemple.
Et cette question de Jean, comment se sont formés justement les anneaux de Saturne ? On a une idée vraiment de
alors,
la genèse ?
Alors, on a quelques idées, oui. Et alors, ça fait quelques années seulement qu'on pense que déjà ces anneaux ne sont pas formés forcément en même temps que Saturne. Ils peuvent être beaucoup plus jeunes et issus de la désintégration peut-être d'une comète qui passait par là et qui s'est fait désintégrer par le champ de gravité de Saturne, et tous ces débris formeraient les anneaux, mais on ne sait pas exactement les dater la formation des anneaux. Et lors des derniers survols de la sonde Cassini, un des objectifs scientifiques, c'est de cartographier alors le champ de gravité de Saturne. Et ce champ de gravité, si on le connaît avec précision, peut nous permettre de remonter à la masse totale des anneaux, ce qui peut permettre de contraindre les modèles de formation des anneaux. Ouais. Donc c'est très important.
Jean-Pierre Le Breton, qu'est-ce qu'on retient scientifiquement d'absolument capital de cette mission Cassini-Huygens, donc entre Saturne et sa lune Titan ?
Alors, on est à peu près à mi-parcours au niveau de l'analyse des données. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour retirer tous les enseignements de ce jeu de données. Ce que je retiendrai, c'est qu'on a vraiment deux satellites autour de Saturne exceptionnels, Titan et Encelade, qui sont des mondes habitables. Alors, ils ne sont pas habités, on ne dit pas qu'ils sont habités, mais ce sont des mondes habitables.
À cause de l'eau liquide, principalement.
À cause de l'eau liquide, des conditions à l'intérieur des océans d'eau sous les couches de glace. Et vraiment, ce sont des mondes dans lesquels qui vont servir de laboratoire, en quelque sorte, pour explorer comment la chimie prébiotique se développe et comment la vie, en quelque sorte, est apparue sur Terre. Je pense que les études prochaines avec les missions futures nous renseignerons énormément sur ces processus.
Ouais, Sandrine Gallet, vous avez cet instrument CIRS qui était un des instruments embarqués dans la mission. Qu'est-ce que lui peut nous apprendre de spécifique ?
Alors, l'instrument CIRS, donc, c'est un instrument qui analyse la lumière infrarouge qui est émise par l'atmosphère de Saturne, de Titan, la surface de différents satellites. Mmh. Et grâce à l'analyse de ces données, on peut cartographier les températures dans la surface et l'atmosphère, cartographier les compositions. Et ça nous apprend, donc à distance, hein, c'est pas des mesures in situ, c'est par télédétection. Et du coup, ça permet d'enrichir nos connaissances sur comment fonctionnent ces atmosphères, ces surfaces. C'est vraiment très riche.
Bon, bah vous aussi, vous avez un travail d'épluchage des données là, pour les années qui viennent. Il y a
du boulot pour les
planétologues et les astrophysiciens. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux.
Avec plaisir.
Le grand final, ce sera donc vendredi en direct à la Cité des sciences et de l'industrie. 11h, 15h pour ceux qui sont à Paris pour vivre l'ultime plongeon de la sonde Cassini-Huygens. Et puis en prélude, dès ce soir, sur France 5, vous avez ce documentaire de 90 minutes de ce voyage à la conquête de Titan, donc cette lune de Saturne. C'est à 20h50 dans la case Science Grand Format. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.